C'est l'un des sondages les plus attendus dans les salles de rédaction, le baromètre La Croix, baromètre annuel de la confiance dans les médias. Il est réalisé par l'Institut Kantar pour le journal chrétien qu'il publie ce matin. Et ses résultats cette année sont à la fois étonnants et rassurants, du moins pour les journalistes. Des résultats qui soulignent également quelques critiques indispensables et stimulantes. Elles nourrissent la réflexion continue que nous avons sur le traitement des faits d'actualité. Bonjour Guillaume Goubert.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de La Croix et c'est avec vous que nous allons détailler et analyser les résultats de ce baromètre. La 34e édition, où lui consacrez un dossier de 5 pages et votre édito. Édito que vous démarrez ainsi par ces mots. Il faut l'avouer, écrivez-vous. Nous redoutions le pire au moment de prendre connaissance des résultats. Pourquoi redoutiez-vous le pire ?
Bien, d'abord parce que la tendance globalement est pas bonne depuis un certain nombre d'années, avec même une aggravation sensible au moment de la crise des gilets jaunes, une dégradation de la confiance entre les Français et notre profession. Et donc je me disais qu'après une année aussi particulière, avec une telle prédominance du dossier Covid sur toutes les... Kantar a calculé que ce sujet a occupé la une de l'actu 306 jours sur 365 en 2020. Donc moi je pensais qu'il allait y avoir... Bon, on sait aussi qu'il y a eu un certain nombre de choses... un peu approximative sur les plateaux, des experts qui n'étaient pas très qualifiés, qui péroraient, etc.
Pardon de sourire.
Et donc, de ce fait, je pensais que les Français allaient dire « ras-le-bol, décidément, ça va pas, votre façon de bosser, on n'en peut plus ». Et or, ça n'est pas vraiment le cas. Les indicateurs sont tous orientés positivement. Je dirais pas que c'est un bond de la confiance, mais c'est vraiment un maintien et amélioration sur tous les critères. Donc c'est plutôt une bonne surprise.
Un frémissement, titrez-vous.
Oui,
ce matin,
un frémissement.
C'est pas un bond, c'est un frémissement.
Voilà.
On va entrer dans le détail dans quelques instants. Je sais que c'est la question peut-être la plus difficile. Comment expliquez-vous ce frémissement, cette confiance accrue dans les médias cette année, après des années et des années de descente relative ?
Eh bien, parce que cette année, nous avons tous, journalistes et consommateurs d'informations, étaient confrontés à un événement complètement inédit, complètement inattendu, qui nous a confrontés à des situations sans précédent. On ne savait pas comment faire pour faire face à ça. Et du coup, on a besoin de son journal, de sa radio, de sa télévision, etc., pour savoir ce qui se passe, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, pour recevoir des informations d'ordre pratique, les gestes de distanciation, l'usage des masques, les règles de confinement, les mesures de soutien aux entreprises, etc. Pour tout ça, les médias étaient très utiles aux consommateurs. Donc, finalement, on est revenu à la fonction primordiale de notre métier, qui est d'apporter des informations. Et ces informations étaient vraiment précieuses pour nos auditeurs et pour nos lecteurs.
Alors c'est un mot que je déteste, qu'il est galvaudé, décrypté, mais là il faut vraiment décrypter parce que c'est très très complexe. Les Français font davantage confiance en la presse et en même temps, ils sont une majorité à reprocher aux médias justement d'avoir donné trop de place à des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet ou à des gens qui sont parfois les mêmes qui expriment un point de vue extrême.
Tout à fait, et je pense que c'est une critique je disais à l'instant, je pense que c'est une critique qui est largement fondée. Enfin, ils ont raison de nous interpeller là-dessus. On sait qu'il y a on me racontait le cas d'un épidémiologue qui intervenait sur un plateau présenté comme tel, et en fait, quand on a regardé de plus près son CV, on s'est rendu compte que sa spécialité c'était l'épidémiologie du sport, ce qui évidemment n'avait pas grand-chose à voir avec le coronavirus. Donc, il y a eu des erreurs de fait comme ça, où les journalistes pour constituer des plateaux, ont parfois été un petit peu vite, parce que les besoins étaient extrêmes. On fait un métier qui présente des risques, hein, il faut bien le reconnaître. Notre rôle, c'est d'apporter le plus vite possible, de faire le lien le plus vite possible entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ça nous amène à prendre des risques. Et parfois, on fait des erreurs. Ça, c'était typiquement une erreur. Que ensuite les consommateurs nous le reprochent, ça me paraît complètement normal. Et c'est quelque chose qu'il faut entendre. Mais globalement, je crois de mémoire, 66% les personnes interrogées disent qu'elles ont été... Elles sont satisfaites de la manière dont elles ont été informées. Elles critiquent certains points, mais pas d'autres.
Ouais. Et il y a un mot qui est apparu justement pour faire écho à ce que vous venez de dire, qui est l'ultra-crépidarianisme. C'était la propension qu'ont certains experts à parler d'un sujet qui n'est absolument pas de leur domaine d'expertise. La crise sanitaire, vous l'avez dit, c'est l'événement dont on a le plus parlé. Les Français s'estiment mieux informés qu'auparavant, mais sur d'autres sujets, ils s'estiment mal informés, notamment par exemple les débats sur la chloroquine. Ça s'explique parce qu'il y a deux points de vue, ou ça s'explique parce que la presse a mal fait son travail, selon vous ?
Ce qui est frappant quand on regarde ça, c'est qu'on se rend compte que les Français nous donnent un satisfecit sur des choses simples, comme l'application des gestes barrières, les règles touchant confinement, l'évolution des chiffres de la pandémie, les mesures prises par le gouvernement. Et là où ça devient négatif, c'est quand il s'agit des recherches sur les vaccins, des conséquences psychologiques de l'épidémie, de l'origine du virus, ou les débats sur la chloroquine. C'est des sujets sur lesquels il y a de l'incertitude, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Alors, sur le cas précis de la chloroquine...
Pardon de vous interrompre sur ces trois sujets. Là, est-ce que ce n'est pas également des sujets sur lesquels il y a du complotisme ?
Oui, bien sûr. Comme il y a de l'incertitude, ça nourrit effectivement des réflexes, des réactions complotistes. Alors, le cas de la chloroquine est un petit peu particulier parce que c'est un des... Il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, des sujets de l'épidémie où il y a eu de véritables querelles politiques, querelles de personnes, des affrontements très violents.
Et des querelles scientifiques. Parce que le professeur Raoult n'est pas seulement... Il est vu par certains comme un gourou, mais quand même son médicament, enfin celui qui recommande la chloroquine, a été utilisé par le président des États-Unis, première puissance mondiale. Donc c'est pas non plus un illuminé dans son coin.
Donc c'est un sujet sur lequel à la fois il y a eu beaucoup d'espoir, parce qu'on a pensé très très tôt, on s'en souvient que c'était peut-être un médicament qui allait permettre de faire face à tout ça. Et c'est parti après c'est parti en eau de boudin dans toutes sortes de querelles, et je comprends qu'à l'arrivée, le consommateur, le lecteur et auditeur se sentent paumés et disent je me sens pas bien informé sur ce sujet-là. Mais pouvions-nous bien informer sur ce sujet-là dès lors qu'il y avait de telles incertitudes et de tels affrontements ?
La crise sanitaire, c'est l'événement dont on a le plus parlé l'an dernier, vous l'avez dit, il a été à la une 306 jours sur 365 selon votre étude. On a même trop parlé selon les trois quarts des Français. À l'inverse, il y a des événements qu'ils auraient aimé voir davantage traités dans les médias, la conférence citoyenne pour le climat, les révélations d'abus sexuels dans le monde sportif et le mouvement pour la démocratie en Biélorussie. Est-ce que les médias doivent prendre le risque de parler de tels sujets qui, a priori, intéressent moins l'opinion ? Et je m'adresse aussi aux patrons de journal que vous êtes et qui, malheureusement, font peut-être moins vendre de papier.
Écoutez, moi je pense qu'effectivement il faut savoir prendre ce risque. Je pense que notamment les clients des médias anciens, institués si je puis dire, ce qui vaut pour une antenne comme la vôtre ou un journal comme le mien, je pense qu'on s'adresse à un public qui a un besoin d'information avec un scope assez large, et que donc il faut pas avoir peur de leur parler de sujets qui sont pas a priori au premier plan de leurs préoccupations. Le tout, c'est de trouver le moyen de les intéresser à ces sujets. Je pense que il y a aussi un truc dont il faut parler, ce sont les événements dont on a convenablement parlé aux yeux de notre échantillon, ni trop ni trop peu, et notamment ça touche les deux grands événements terroristes récents. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi de voir, par exemple, sur l'assassinat de Samuel Paty, qui est un événement qui a donné lieu énormément, enfin je veux dire, c'était un des très très grands événements de l'année. On aurait pu s'attendre à ce que, et surtout compte tenu de l'horreur de cet événement, que beaucoup de personnes nous disent « vous nous en avez trop parlé », et non, ils n'ont pas ressenti ça, et je veux dire, c'est intéressant d'analyser un peu l'offre et la demande de ce point de vue-là. Parfois nous sommes au-delà de la demande, mais parfois nous sommes, même si nous en faisons beaucoup, nous sommes au rendez-vous de l'attente de nos clients.
Et d'un mot, le second événement terroriste, c'était l'attentat à la basilique à Nice. C'est bien celui-ci. Vous restez tout avec nous, Guillaume Goubert, le directeur du journal La Croix. On continue à détailler et à plonger dans les arcanes, les méandres de ce baromètre. À tout de suite.
Europe 1, culte belle.
En compagnie de Guillaume Goubert, le directeur du journal La Croix, qui publie ce matin son baromètre très attendu. Le baromètre La Croix s'est fait Kantar de la confiance envers les médias. En gros, la question qui est posée, c'est quand vous entendez quelque chose à la radio, à la télévision, vous lisez dans le journal, est-ce que les événements se sont passés tel qu'on vous l'a raconté, et c'est cet indicateur que vous suivez, que vous menez depuis 34 ans. Pour bien comprendre les résultats, il faut aussi savoir comment il a été réalisé ce baromètre. C'était il y a près de 3 semaines, entre le 7 et 11 janvier, ce qu'on appelle la méthodologie, selon la méthode des quotas, échantillons représentatifs de 1000 personnes. Jusque-là, j'ai rien dit, rien de surprenant. Ce qui l'est davantage, c'est la précision suivante. Les entretiens se sont déroulés en face à face, au domicile des personnes, plus de 1000 personnes. Qu'est-ce que ça change par rapport aux sondages réalisés la plupart du temps par téléphone ou en ligne, à part que ça coûte très cher d'abord ?
Ce que ça change, c'est que d'abord c'est la technique d'origine, c'est-à-dire qu'avant Internet et même avant le développement de
certains développements de téléphone.
Pardon ?
C'était au téléphone autrefois les sondages.
Non, l'idéal c'était quand même de le faire en face à face parce que on a un meilleur contact avec les personnes interrogées, les personnes qui interrogent peuvent mieux formuler éventuellement évidemment, elles peuvent apporter une toute petite précision par rapport, etc. Donc, ça permet quand même une meilleure qualité de réponse que par Internet où tout se fait par écrit. Donc, de ce point de vue-là, c'est la technique traditionnelle. Je dirais que c'est un peu un sondage à l'ancienne, au meilleur sens du terme.
Exactement. On va passer en revue les principaux indicateurs. Le premier, c'est l'intérêt porté à l'actualité. Il est en nette hausse, plus 8 points par rapport à l'an dernier. On a compris les raisons de la hausse, mais pas forcément celle de son ampleur. 8 points, c'est beaucoup. Vous avez une explication ?
Oui, c'est le caractère inédit des événements que nous vivons depuis un an, où nous nous sommes tous trouvés confrontés à des choses qu'on n'avait jamais vécues avant et qui ont complètement bouleversé nos vies. Donc, et en plus, il y a eu les périodes de confinement où on a été entre guillemets enfermés chez nous et où à ce moment-là, eh ben on allume sa radio, on allume sa télé, on regarde sur Internet parce que on veut comprendre ce qui se passe parce qu'on est chez soi et on a moins d'interactions avec d'autres personnes qui vous racontent des choses, quoi. Donc l'intérêt pour l'information cette année, c'est normal qu'il ait fait un bond.
Moins réjouissant, l'intérêt pour l'actualité qui n'a pas augmenté chez les jeunes. Les 18-24 ans, 51% d'entre eux s'intéressent à l'information. C'est une courte majorité, 51%. Mais chez les Français en général, c'est 67%. Qu'est-ce que cela dit ?
Cela dit effectivement que l'intérêt pour l'information au sens traditionnel du terme est nettement plus faible chez les jeunes. Et de même que leurs moyens d'information sont très différents, puisque les jeunes, pour les moins de 35 ans, ce qui n'est déjà pas tout à fait jeune, Internet est de très loin la première source d'information et le premier support d'information, c'est le smartphone. Mmh. 66% s'informent sur Internet et 50% sur leur smartphone. Donc c'est des comportements... Bon, il y a tout le développement de l'information via les réseaux sociaux, etc. Ce sont des modes de consommation d'information qui sont complètement différents, mais on le constate autour de nous, dans nos vies, avec nos enfants. On a beau être journaliste, on voit bien que nos enfants... Ouais. Faire un journal papier, je vois bien que mes enfants, ils s'informent sur leur téléphone et ils lisent pas des journaux papier.
Ils lisent pas la Croix, vos enfants ?
Si, mais sur leur téléphone.
Internet, puisque vous en parlez, reste le média le moins crédible. 28% des Français lui font confiance, c'est quand même un chiffre en hausse.
C'est quand même en hausse et je pense que c'est relié à ce que je viens d'observer, c'est que l'usage est de plus en plus grand. Ce qu'on peut dire aussi sur Internet, c'est que beaucoup d'internautes vont sur les sites des médias traditionnels, c'est-à-dire qu'ils vont sur le site du Monde, ils vont sur le site d'Europe, ils vont sur le site de la Croix. Quand ils veulent de l'information sérieuse, ils se tournent vers les grandes marques de presse, les grandes marques de communication.
Dans l'actualité de la presse, il y a cet accord cadre passé avec Google sur les droits voisins, autrement dit sur la rémunération par Google des informations publiées par les journaux et reprises ensuite par le géant américain. Il s'agit d'un accord cadre avec l'APIG, c'est l'Alliance de la presse d'information générale qui regroupe 300 titres, des quotidiens notamment dont La Croix. Est-ce que le journal a trouvé un accord avec Google ? Est-ce que vous discutez encore ?
Nous discutons encore, mais c'est vraiment maintenant sur des modalités secondaires. Mais maintenant, le cadre est fixé, le cadre est moins mauvais que ce qu'on a pu craindre à un moment, c'est-à-dire que malgré tout Google a reconnu l'existence d'un droit voisin, c'est-à-dire de rémunérer les informations que nous publions et qu'ils reprennent sur leur site.
Pardonnez-moi, il l'a reconnu parce que c'était dans la loi.
Oui, mais ils ont quand même cherché par différents moyens à contourner cette obligation. Et là, je pense que toutes les polémiques et un certain discrédit qui est actuellement autour des GAFAM, qu'on a notamment vu à l'occasion des élections américaines, autour de ces géants du numérique, font que Google n'a peut-être plus tout à fait la même, le même impérium, ou voire la même arrogance qu'ils pouvaient avoir il y a encore quelques mois, parce que ils savent qu'ils ont un gros problème d'image à améliorer et que ça passe notamment par de meilleures relations avec les médias.
D'un mot, puisque vous êtes au cœur du réacteur, il y a eu cet accord cadre signé par un ensemble, mais ensuite chaque rédaction, chaque journal discute de gré à gré avec Google.
Oui, il y a une part qui est propre à chaque journal, le nombre d'articles que Google va mettre en valeur sur un nouvel outil qui s'appelle Showcase, qui est une sorte de vitrine que Google propose aux médias. Il faut chaque média négocie le nombre d'articles auxquels il aura droit en fonction de sa diffusion, de son audience, etc.
Avant de changer de sujet, ils sont durs en affaires ?
Très durs.
On a parlé des effets de la crise sanitaire sur la confiance dans les médias, mais pas des effets sur les résultats de votre journal, La Croix. Comment se porte votre journal ?
J'ai coutume de dire aussi bien que possible, c'est-à-dire que les temps sont difficiles, ouais. Vous le savez bien, pour les médias traditionnels, avec notamment la captation des recettes publicitaires par les GAFAM. Il faut savoir que Facebook et Google, à eux deux, accaparent 25% du total mondial de la publicité. Deux entreprises qui ont un quart du marché mondial de la pub, c'est incroyable. Donc, dans ce cadre-là, nous nous portons relativement bien, en s'appuyant notamment sur une incroyable fidélité de nos lecteurs et une relation avec nos lecteurs qui est très forte et qui s'est encore accentuée cette année du fait de la crise sanitaire.
Et en même temps, et on s'en réjouit, La Croix, c'est pas seulement un quotidien, c'est également un groupe.
La Croix appartient à un groupe qui s'appelle Bayard Presse, qui vit une très bonne année, grâce notamment à son secteur de l'édition et de la presse pour les jeunes, avec des marques comme Pomme d'Api, J'aime lire, Astrapi, Okapi, une héroïne de BD qui a un succès incroyable qui s'appelle Mortel Adèle, et donc le groupe fait une bonne année parce que cette année les parents étaient très soucieux de ce que lisaient leurs enfants.
Merci beaucoup les parents et merci à Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix. Évidemment, beaucoup de choses n'ont pas été dites dans cette émission, il y a 5 pages pour ce baromètre à retrouver maintenant en kiosque, évidemment sur internet. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.